Chapitre 17. Agnès revient à Clifton sous un tout autre aspect. Une rencontre. Le bien produit quelquefois le mal. Quand, le lendemain matin de leur arrivée à Clifton, Agnès se présenta à Rodney Place, au premier abord, le domestique qui lui avait ouvert tant de fois pendant son dernier séjour ne la reconnut pas, tant sa tournure était différente de celle qu'elle avait au temps où elle portait le résidu des hardes de Mistress Barnabé. Toutefois, aussitôt qu'il eut découvert que c'était bien la même Miss Willoughby dont le départ avait coûté tant de larmes à ces dames, il la fit monter à la chambre de Miss Peters. Il est à croire que Marie s'inquiéta plus des traits que de la toilette de la visiteuse qui lui arrivait, car elle ne l'eut pas plutôt vue que, jetant un grand cri, elle s'élança vers elle et l'enveloppa de ses bras dans la plus affectueuse étreinte. « Mon Agnès chérie, ah, que c'est bien de vous! J'étais justement en train de calculer si les chances étaient pour vous voir arriver aujourd'hui ou demain. Ah, petite fille, ne vous avais-je pas dit de vous adresser à Miss Compton, de Compton Bassett? Que dites-vous de ma sagesse maintenant ?» « Je dis que vous étiez inspirée, Marie, et que j'ai bien mérité de souffrir pour n'avoir pas cru à votre oracle. Mais si j'avais agi ainsi, je n'aurais jamais su... » « La différence qu'il y a entre un intérieur Barnabé et un intérieur Compton, n'est-ce pas ?» interrompit Marie en finissant la phrase de son amie. Agnès rougit, puis, avec un sourire heureux, « Oui, assurément, je puis bien dire cela. » Mademoiselle Peters la regarda et se mit à rire. « Il y a encore autre chose que vous n'auriez pas su, Agnès. J'en suis sûre, rien qu'à votre air circonspect. Et il faut que ce soit quelque chose d'important à votre apparence de bonheur radieux, apparence que je n'avais encore jamais vue sur votre joli visage. Voyons, dites-moi ce que cela signifie. » « Marie, je n'ai pas l'intention de vous cacher une seule de mes pensées. » « Mais pas maintenant, ma chérie. Songez que votre mère vous attend en bas pour déjeuner et que je ne saurais me permettre de rester ici à jaser avec vous avant d'aller lui rendre mes devoirs. » « Vous êtes bien récalcitrante, Miss Willoughby. Je crains que la tante Compton ne vous gâte beaucoup. Descendons alors, mais souvenez-vous bien que vous me devez un récit. » Agnès fut reçue à bras ouverts par toute la famille. Et, aussitôt le repas terminé, Mistress Peters demanda à sa jeune amie de la mener auprès de Miss Compton. Marie seulement accompagna sa mère, et ces trois dames partirent pour le mail. Miss Compton reçut et entretint ses visiteuses d'une façon qui fut pour Agnès une nouvelle source de surprise. Tout en prisant très haut l'intelligence de sa tante, elle avait craint que la grande réclusion dans laquelle elle avait toujours vécu ne la rendit fort timide vis-à-vis des personnes étrangères. Mais il n'en était rien. Miss Compton, très satisfaite de l'air et des manières de Mrs. Peters et de sa fille, le leur laissa comprendre plutôt avec cette courtoisie aisée avec laquelle le supérieur traite ses inférieurs qu'avec cette mauvaise honte à laquelle on aurait pu s'attendre. Le but de la visite de Mrs. Peters était surtout d'obtenir de Miss Compton la permission d'emmener Agnès à une réunion où ces dames allaient dans la soirée. N'ayant pas le temps voulu pour faire inviter Miss Compton, selon les règles exigées par les convenances, l'aimable dame désirait qu'elle voulût bien lui confier Agnès. Cette requête fut accueillie avec reconnaissance, et quand on parla des arrangements à prendre pour se rendre à la soirée, Miss Compton dit « Agnès a ici sa voiture et ses gens. » Mais il ne serait pas convenable qu'elle allât seule. Permettez-lui, madame, de passer chez vous prendre Miss Marie. Sa voiture suivra la vôtre. » Sur quoi la mère et la fille prirent congé. Et tout en quittant la maison, elles échangeaient un regard qui exprimait toute leur satisfaction sur le changement survenu dans la condition de leur jeune favorite. « Eh bien, maman, pour cette fois, vous n'aurez pas à vous repentir de m'avoir obéi en mère soumise, » dit Marie. « Il n'y a rien là du genre Barnabé. J'étais bien sûre que c'était quelque chose que cette Miss Compton de Compton Bassett. » « Si Agnès n'est jamais pour moi une occasion de revoir mon incomparable belle-sœur, » répondit la mère, « je pourrais vous remercier, impertinente fille, d'avoir pris les rênes de cette affaire, car je raffole de cette Miss Compton. Il y a en elle une originalité, comme un goût de terroir, tout à fait amusant. Quant à votre Agnès, avec son jeune bonheur tout fraîchement éclos, avec sa grâce ravissante, dont on ne peut se faire vraiment une idée que maintenant, elle est bien la créature la plus adorable que j'ai jamais vue. Est-elle assez gentille avec cette tante, dont elle est fière? Et dans sa joie de nous revoir, a-t-elle été naturelle? Et pourtant, les circonstances sont terriblement différentes pour elle. Surveiller la toilette d'Agnès pour la réunion du soir fut une page nouvelle et pleine de charme dans l'histoire de la vieille fille de Compton Bassett. Jamais plus tendre mère, parent pour son entrée dans le monde, une fille douée de beauté, n'a surveillé cette opération avec plus d'anxiété. Il faut bien dire que la réussite de cette toilette, en cette occasion, était pour la tante un triomphe personnel, analogue à celui qu'éprouve l'artiste accompli quand, passionnément épris de son travail, il contemple le chef-d'œuvre qu'il vient de créer. Grâce au bon goût inné de la jeune fille et aux conseils pratiques d'une modiste expérimentée, la toilette d'Agnès fut parfaitement ce qu'elle devait être, et l'orgueilleuse vieille dame n'aurait pu souhaiter à sa fille adoptive un air plus comme il faut que celui qu'avait cet adorable enfant lorsque, se détournant tout à la fois de Peggy et de son miroir, elle vint faire, en se jouant, une révérence à sa tante, en lui disant « N'avez-vous pas fait de moi une belle dame, tante Betsy ?» Quand la voiture de Miss Compton s'arrêta à Romney Place, ce fut Mrs. Peters, au lieu de sa fille, qui vint y prendre place. « Marie est furieuse contre moi, dit-elle, tandis que la voiture marchait, parce que je n'ai pas voulu qu'elle vous accompagnât. J'ai pensé qu'il était plus convenable que je vous présentasse moi-même à Mistress Pemberton. C'est une très, très grande dame. Elle n'est pas des nôtres, nous, humbles bristoliens cliftonistes, qui plaçons au-dessus de toutes les supériorités auxquelles nous pourrions prétendre l'orgueil que nous inspire nos rochers calcaires dominant le cours d'eau qui baigne nos quais marchands. Mistress Pemberton a une maison à Londres, une propriété dans le Buckinghamshire, et fait à chaque instant, avec une vélocité toute aristocratique, des fugues sur le continent. Seulement, elle a un faible, commun à des mortels plus ordinaires qu'elle. Elle aime prodigieusement la musique. Ceci, joint à une sorte d'ambition de vouloir avoir un salon chaque fois qu'elle passe une soirée chez elle, lui a imposé la nécessité de faire des visites à plusieurs d'entre nous, qui, sans cela, n'eussent pas été dignes d'approcher de son tabouret de pied. Nous nous sommes trouvés avec elle chez les Parslow, où mes filles ont exécuté quelques morceaux avec un certain succès. Il s'en est suivi une présentation. Elle m'a fait l'honneur de venir à un concert chez moi, et voici la quatrième soirée que nous passons avec elle. Vous avez maintenant la carte du pays, et je ne doute pas que vous ne soyez de l'avis que votre entrée se fera bien plus convenablement à mon bras que parmi les demoiselles de ma suite. Agnès avoua qu'en effet, c'était bien préférable ainsi et remercia sa compagne de sa vigilante attention. Peut-être n'est-ce pas parfaitement désintéressé de ma part, Agnès. Je suis un peu fière d'avoir une exotique telle que vous à produire. Quelle charmante personne que cette tante Compton. Une voiture parfaite, des domestiques évidemment citadins, du satin blanc et de la blonde, comme pour les débuts d'une duchesse. Si votre petite tête ne tourne pas avec tout cela, Agnès, vous mériterez d'être citée comme un miracle. J'ai eu assez de force pour maintenir à la surface la plus vertigineuse des embarcations, ma chère Mistress Peters, répondit Agnès. Ce serait bien sot à moi de jeter mon lest par-dessus bord, maintenant que je fais voile avec le vent. Ainsi donc, vous n'avez pas la tête tournée. C'est là ce que vous voulez dire, n'est-il pas vrai? « Oui, répondit Agnès en riant, je n'ai pas la tête tournée, j'en suis à peu près sûre. Mais pourquoi me faites-vous tant de questions sur l'état de mon esprit, Mistress Peters? Serait-il donc appelé ce soir à donner quelque illustre preuve de sa vanité? Oui, ma chère, on vous demandera très certainement de chanter, et il vous faudra prouver, à ma grande satisfaction, que vous n'êtes pas devenue une si grande dame que vous ne puissiez plus obliger vos amis. Est-ce là tout ? Comptez que je ferai tout ce que vous pouvez désirer de moi. » Le salon de Mistress Pemberton était plein de monde quand elles y entrèrent. Mais cette dame, les ayant aperçues au moment où elles arrivaient, s'avança à leur rencontre avec un tel empressement qu'Agnès pensa que Mistress Peters avait fait preuve d'une bien grande modestie dans le récit de leur connaissance. Quelques minutes de plus l'eurent bien vite convaincue qu'elle, Agnès, toute inconnue qu'elle était, pouvait se flatter d'avoir une certaine part à cette gracieuse réception, car Mistress Pemberton, la prenant par la main, la conduisit à une place située au plus haut bout de la chambre, et cela avec une distinction si marquée qu'en dépit de la philosophie dont la jeune fille venait de se vanter, cette distinction, si elle ne lui tourna pas la tête, lui fit du moins monter aux joues une rougeur fort éclatante. Quelques paroles dites par Mistress Pemberton à l'une des personnes auprès desquelles elle avait placé Agnès expliquèrent le mystère en révélant que Mistress Peters avait fait connaître à l'avance son intention d'amener une jeune amie. « Miss Eversham, il faut que vous me permettiez de vous présenter cette jeune demoiselle. Miss Willoughby, Miss Eversham. D'après un petit mot de Mistress Peters reçu ce matin, je me flatte d'avoir le bonheur de vous entendre chanter ensemble. La voix de mademoiselle est un contralto, Miss Willoughby, et d'après ce que j'ai entendu de votre talent chez Mistress Peters, vos voix réunies feront un effet ravissant. » Ce discours des plus inattendus n'était pas fait pour amener le sang-froid d'Agnès. Il lui fallut appeler tout son courage à son aide pour répondre aux nombreuses questions de Miss Eversham, demoiselle un peu âgée, bien trop habituée à se mettre en évidence pour avoir la moindre pitié de la jeune fille. Voulant se délivrer de ces questions sans fin qu'on lui faisait subir, elle s'était mise à regarder la compagnie comme pour s'excuser de se détourner de son interlocutrice, lorsque ses yeux tombèrent sur le profil du colonel Hubert, qui se penchait pour parler à une vieille dame assise sur un sofa. Ce n'était certes pas là une circonstance qui fût de nature à la remettre. Seulement, elle lui évita de prolonger l'anxiété causée par les efforts qu'il lui fallait faire pour recevoir avec politesse les attentions de sa voisine, car elle oublia complètement qu'elle fût auprès d'elle et devint absolument incapable aussi bien d'entendre ses demandes que d'y répondre. L'avait-il vue? Savait-il qu'elle était à Clifton? Sa tante, Lady Stephenson, était-elle là? Comment allait-il se conduire avec elle? Leur relation allait-elle recommencer du point où elles avaient été interrompues? Ou bien, maintenant que tout était si différent, allaient-ils se trouver placés tous deux dans une position nouvelle? Renouvellerait-il sa proposition de façon à lui fournir l'occasion de lui faire une autre réponse? Oh, comme celle-là serait différente de la première! Telles étaient les pensées qui se croisaient dans son esprit, la mettant dans l'impossibilité complète d'entendre l'enfilade d'interrogations musicales qu'on débitait à côté d'elle. Le petit intervalle que le colonel Hubert passa à causer dans sa même attitude parut un siècle à Agnès. Son attente devenait si douloureuse qu'elle tournait presque au désespoir. Enfin, la vieille dame s'étant détournée pour parler à sa voisine, le colonel se redressa et promena ses yeux sur l'assemblée. L'émotion d'Agnès était trop violente pour qu'il s'y mêlât aucune fausse honte. Elle chercha les yeux du colonel et les rencontra. En un instant, toute souffrance, toute anxiété furent payées plus de 1000 fois, car le regard qui se croisa avec le sien réalisa tout ce que son cœur pouvait désirer. Il était bien clair qu'au premier coup d'œil, il ne l'avait pas reconnue. Son regard n'avait fait qu'errer vaguement sur la compagnie, évidemment sans avoir aucun but, et si Agnès avait bien su suivre ce regard, elle l'aurait vu se fixer tout d'un coup sur elle, comme si quelque chose l'avait averti de la présence d'un objet digne d'attirer son attention. Tout ceci ne dura que la 10e partie d'une minute, et voici le colonel qui s'élance vers elle, sa fière et belle physionomie exprimant une émotion qu'il ne peut maîtriser. et la rapidité avec laquelle il s'approchait ne prouvait que trop combien il oubliait qu'il voulait traverser un salon rempli de monde. Toutefois, quand il eut atteint la jeune fille, bien que l'intervalle eût été fort court, l'incarnat qui avait tout d'abord illuminé les joues d'Agnès avait fait place à une excessive pâleur. Et quand il lui adressa la parole, elle tremblait tellement qu'il lui fut absolument impossible d'articuler un mot. Le colonel vit cette émotion et pensa qu'elle ressemblait beaucoup à ce qu'il éprouvait lui-même. S'il avait eu 25 ans, il n'aurait sans doute pas voulu en voir davantage, mais les circonstances étaient ce qu'elles étaient, il ressentit au cœur un spasme terrible. L'odieuse pensée qu'après ce qui s'était passé entre eux, cette pâleur, cette agitation pouvait s'expliquer de deux façons, n'était-elle pas toujours là? Ce ne fut qu'une angoisse passagère, et mourant d'envie de présenter Agnès à sa tante et à sa sœur, il retint la main qu'elle lui avait tendue en lui disant « Laissez-moi vous conduire auprès de Lady Elizabeth, Miss Willoughby. Lady Stephenson et elle sont dans le salon à côté. Elles seront ravies de vous voir. » Agnès se leva, et quoiqu'en réalité elle pût à peine se tenir debout, elle répondit, avec ce qu'elle avait pu trouver de voix et tout en prenant le bras du colonel, qu'elle lui serait fort obligée. En ce moment, Sir Edward Stephenson traversait la pièce, les yeux fixés sur Agnès, avec une curiosité fort visible, cherchant à s'expliquer quelle pouvait être la personne que son imposant beau-frère escortait si obséquieusement. L'extrême beauté d'Agnès, jointe à l'élégance remarquable de sa toilette et de sa tournure, avait déjà, à la vérité, attiré sur elle tous les regards, et Mistress Pemberton avait déjà dû répondre plusieurs fois que c'était une riche héritière et, de plus, la première chanteuse amateur du royaume. Elle tenait ses renseignements du billet envoyé le matin par la judicieuse Mistress Peters, et en les répétant parmi ses invités, Mistress Pemberton était loin de diminuer l'intérêt qu'inspirait Agnès. Sir Edward était de ceux qui avaient entendu parler de sa condition d'héritière et de sa voix remarquable, mais le nom n'était pas venu jusqu'à lui. Et en regardant l'élégante jeune fille, toute vêtue de satin blanc, qui s'appuyait sur le bras du colonel Hubert, l'idée ne lui était pas venue de découvrir la plus légère ressemblance entre elle et la belle fille tout en noir qu'il avait vue à Cheltenham une ou deux fois. Un encombrement obstruait la porte entre les deux salons. Ce fut en cet instant que Sir Edward dit à l'oreille du colonel « Qui est votre belle amie ?»« Ne la reconnaissez-vous pas, Sir Edward? C'est Mademoiselle Willoughby. »« Comment? La jeune fille? La jeune personne que nous avons vue à... Ah, quelle folie, Montaigu! Qui est-ce ?» Le colonel Hubert haussa les épaules devant l'incrédulité de son beau-frère, et après lui avoir répondu tranquillement « Je vous ai dit tout ce que je savais », il saisit l'occasion favorable que lui offrait un mouvement dans la foule et fit franchir la porte à sa belle compagne. Pendant le léger temps d'arrêt qu'avait occasionné cet encombrement, Agnès était assez remise pour comprendre, avec une angoisse des plus poignantes, combien les moments qui allaient suivre étaient importants pour son bonheur. Si Lady Elizabeth allait la regarder avec dureté, Lady Stephenson avec froideur, à quoi lui serviraient toutes les bénédictions que le sort et l'affection avaient répandues sur sa tête favorisée? Et alors, pour la première fois, elle sentit toute l'étendue de ce qu'elle devait à Miss Compton, car en ce moment, le sentiment qu'elle avait de ne plus être une pauvre fille sans un penny lui faisait éprouver plus de bonheur que n'importe quelle autre preuve de la richesse de sa tante. Et quand elle se souvenait qu'en parlant d'elle à Mistress Peters, Miss Compton l'avait nommée un peu pompeusement « Mon héritière, l'héritière des biens de mon père et de quelque 20 000 livres sterling d'une autre part », quoique cela lui eût été en quelque sorte désagréable à entendre quand elle s'en souvenait, c'était en ce moment si émouvant pour elle, avec une satisfaction qui n'eût pas manqué d'être bien mal interprétée si l'on avait pu la soupçonner. Les uns auraient vu là de l'orgueil, les autres une très haute idée de sa propre valeur, tandis que le sentiment ne venait que d'une humilité vraie et profonde qui bénissait toutes les circonstances paraissant devoir diminuer aux yeux de la famille et du colonel Hubert la distance qu'elle sentait entre lui et elle. Mais malgré le secours de ses pensées réconfortantes, ses joues n'en restaient pas moins dépourvues de couleur et ses yeux remplis de larmes quand elle se trouva tout debout, presque comme une coupable, devant l'imposante Lady. Ce ne fut pas à la première vue que son œil interrogateur, quoique timide, put lire sa sentence, car la physionomie expressive de la vieille dame passa par plus d'une variation avant qu'elle ne parlât. Ce fut d'abord l'étonnement qui se peignit sans équivoque sur cette physionomie, puis vint un sourire qui exprimait l'admiration aussi clairement que possible. À ce moment, par parenthèse, sa seigneurie se sentait parfaitement convaincue que le nez de l'honorable Miss Yvette et celui de Miss Willoughby étaient faits sur le même moule. Et enfin, quelle que pût être son intention de se tenir sur la réserve, elle tendit ses deux mains à Agnès avec des paroles et d'un air qui rendait son accueil on ne peut plus cordial. Le cœur d'Agnès bondit quand elle entendit ces paroles bienveillantes et le regard brillant de bonheur qui succéda à la pâle tristesse répandue d'abord sur ses traits toucha tellement la vieille lady que, sans la présence de cette foule qui les entourait, elle lui aurait jeté les bras autour du cou et l'aurait serré passionnément sur son cœur. Lady Stephenson fut tout aussi affectueuse dès le premier instant et Sir Edward lui-même, qui jusqu'ici n'avait pas eu l'air de trouver nécessaire de s'occuper de la chanteuse favorite de sa femme, s'évertuait maintenant à revendiquer les droits qu'il avait à être de sa connaissance, s'excusant de ne pas l'avoir reconnue tout de suite, en disant « Le changement de toilette, mademoiselle Willoughby, doit être mon excuse. Depuis que je ne vous ai vue, vous avez quitté le grand deuil. » Agnès salua en souriant et ne parut pas avoir été le moins du monde blessée. À vrai dire, en ce moment, elle était trop heureuse pour ne pas être enchantée de tout le monde. Pendant ce temps-là, le colonel Hubert était resté debout, la regardant avec amour, avec admiration, avec étonnement, lui aussi, presque tout comme sa tante. Mais ce n'était pas du bonheur que lui procurait cette vue. Sans avoir jamais établi dans son esprit un équilibre bien positif entre les avantages de sa position vis-à-vis de celle de la jeune fille, il s'était dit que le rang qu'il occupait dans le monde et sa fortune, indépendante sinon très forte, pouvaient contrebalancer la grande jeunesse d'Agnès, cette constante pierre d'achoppement à sa félicité, ainsi que son éclatante beauté. Mais cette transformation, d'une simplicité presque outrée en l'élégance coûteuse qu'il avait devant les yeux, indiquait une position sociale vis-à-vis de laquelle la sienne propre ne présentait plus un contraste assez favorable. Il lui semblait qu'elle n'était plus cette Agnès qu'il ne pourrait obtenir qu'en faisant un sacrifice qui devait prouver clairement la puissance de son amour. Et quand il la voyait être le principal objet de l'attention de toute l'assemblée et le sujet d'une admiration avouée de tous, il tremblait. Lady Elizabeth, qui occupait une petite causeuse dans le renfoncement de la cheminée, fit mettre Agnès auprès d'elle, en priant avec fort peu de cérémonie un monsieur qui était à ses côtés de vouloir bien lui céder la place. « Je vous demande mille pardons, monsieur, mais je ne vois pas d'autre endroit dans cette pièce où nous puissions espérer nous asseoir en tête à tête, et si vous saviez combien mademoiselle m'est chère, je suis sûre que vous m'excuseriez. » Le gentleman, quoiqu'il ne fût pas un jeune homme, assura sa seigneurie, avec l'apparence de la sincérité, qu'il n'était pas un homme qui ne considérât comme un honneur et un plaisir de céder sa place à une aussi belle personne. Ayant donc réussi à installer sa favorite à côté d'elle, Lady Elizabeth commença tout bas d'innombrables questions sur Miss Compton. « Comment se fait-il, ma chère, que lorsque vous nous avez ouvert votre cœur à Émilie et à moi au sujet de votre malheureuse situation auprès de Mistress Barnabé, vous n'ayez jamais parlé de la possibilité de vous placer sous la protection de Miss Compton ?»« Parce que ma tante Compton, s'étant querellée avec ma tante Barnabé, avait déclaré ne plus jamais vouloir entendre parler de moi. Du moins, pendant les 6 ou 7 mois que j'ai passés avec Mistress Barnabé, cette dernière m'avait amené à croire que toute tentative de ma part auprès de Miss Compton serait vaine et ce fut seulement l'arrestation de Mrs. Barnabé qui me donna le courage désespéré de m'adresser à ma tante Compton. Mais depuis j'ai appris, Lady Elizabeth, que, n'importe à quel moment, un mot de moi aurait suffi pour lui faire quitter sa retraite et venir me tirer de la terrible position où j'étais. Mais il semblerait qu'elle n'ait pas seulement une bonne tante, mais une riche tante, ma chère enfant. Excusez cette observation, Agnès. Dans la situation où nous sommes vis-à-vis l'une de l'autre, vous ne pouvez trouver cela impertinent. Votre toilette indique un grand et favorable changement en matière pécuniaire, de même que votre lettre et votre heureuse physionomie en annoncent un sur les autres matières. Miss Compton, à ce que je présume, a une grande fortune. Sa fortune est beaucoup plus grande que je ne me l'imaginais, reprit Agnès. Elle vivait avec une grande économie avant de m'avoir adoptée. Et savez-vous quelles sont ses intentions à votre égard ? Ajouta la vieille lady avec persévérance. C'est uniquement comme tante du colonel Hubert, retenez bien ceci, ma chère enfant, c'est uniquement comme la tante du colonel que je vous fais cette question. Agnès rougit, tandis qu'au fond de son cœur, elle ressentait la plus vive impression de bonheur. Elle répondit « L'intérêt si affectueux que vous voulez bien me montrer me fait à la fois honneur et plaisir, et bien que je ne veuille me vanter en aucune manière de ce que la tendresse de ma chère tante m'accorde et me promet, je ne vous cacherai rien de ce qu'elle m'a dit, Lady Elizabeth. Elle sait l'honneur que m'a fait le colonel Hubert, elle sait que la crainte seule et unique de vous déplaire a pu me faire hésiter à accepter, et elle m'a dit que, si vous ne désapprouviez pas cette union, elle me donnerait une fortune. Fort bien, ma chère, je ne vois pas les probabilités d'aucune désapprobation en tout ceci. Quand vous présenterez-vous à elle ? Demain, Lady Elizabeth, répondit Agnès avec ardeur, si vous voulez bien nous accorder la permission d'aller vous voir. Oui, c'est convenable, tout à fait convenable, ma chère. Il faut qu'elle vienne chez moi la première. Et cependant, non, je ne suis pas précisément sûre de cela. Je crois au contraire que ce sont les parents du gentleman qui doivent en premier faire visite aux parents de la demoiselle. Par conséquent, j'irai la voir demain matin, et souvenez-vous bien, quand vous nous aurez présenté l'une à l'autre, vous vous en irez. Il faudra que nous parlions affaires. Quelle est son adresse ? Agnès donna l'adresse bien distinctement et Lady Elizabeth la répétait de même, comme Mistress Pemberton s'approchait pour demander avec instance la permission de conduire Agnès au piano. Vous allez chanter, ma chère enfant. Très bien. Je serai ravie de vous entendre. Et Mistress Pemberton, il faut que vous me trouviez une place d'où je puisse tout à la fois l'entendre et la voir, dit Lady Elizabeth. Fort surprise et en même temps très charmée que la connaissance qu'elle avait bien voulu faire de Mistress Peters l'eût amenée à avoir l'honneur de recevoir une amie intime, une favorite de la plus illustre de ses invitées, Mistress Pemberton s'acquitta avec quelque ostentation du service qu'on venait de réclamer d'elle. Et Agnès se trouva encore une fois installée au piano avec le fauteuil de Lady Elizabeth presque aussi près d'elle que le reçoit où, à Cheltenham, elle avait conquis le cœur de la vieille lady. Mais où était le colonel Hubert ? Il avait surveillé avec anxiété l'échange des premiers mots entre sa tante et Agnès, et après avoir vu la façon cavalière dont la plus âgée avait renvoyé son voisin et le pied d'amitié cordial sur lequel se poursuivait la conversation, le bonheur de constater que, bien décidément, il n'y avait là aucun obstacle, lui fit presque oublier les craintes qu'il avait conçues. Craignant donc de troubler cet entretien, il s'était retiré dans l'autre pièce et, quand il reparut aux yeux d'Agnès, ce fut au piano, à ses côtés, pour lui tourner les pages. Au premier moment, la pauvre enfant eut la crainte d'être trop heureuse pour pouvoir chanter. Elle essaya cependant, et trouvant sa voix en bon état, elle prit la résolution de la rendre aussi ferme que possible, car ce qu'elle désirait, et avec quelle ardeur que toutes les jeunes filles en soient juges, c'était de faire renaître chez le colonel l'impression qu'elle avait faite sur lui, ce matin à jamais mémorable, où elle avait osé s'imaginer qu'il pouvait l'aimer. Son désir ne fut pas vain. Elle chanta aussi bien que ce jour-là, et il en fut tout aussi émerveillé. À mesure qu'elle s'en apercevait, elle ressentait un bonheur indicible. Mais pour lui, il n'en était pas de même. En voyant cette élégante demoiselle, qui était devenue la personne à la mode, la favorite adulée de son orgueilleuse tante, Lady Norris, pouvait-il oublier la passion généreuse et dévouée que cette même jeune fille avait inspirée à l'infortuné Frédéric? Pouvait-il oublier que c'était son influence qui avait fait renoncer ce jeune homme à un attachement qui lui aurait offert toutes les chances de bonheur? Et n'avait-il pas l'air de profiter de ce que Frédéric était exilé, loin de sa patrie, victime d'un amour infortuné, pour vider la coupe de félicité que sa propre main avait arrachée aux lèvres de son malheureux ami? Tant qu'Agnès avait été liée à Mistress Barnabé, la honte que la vulgaire légèreté de cette dernière infligeait en quelque sorte à sa nièce impliquait une idée de sacrifice de la part de celui qui voulait l'épouser. Et l'opposition de la famille de Stephenson, sa fortune splendide, formait autant de raisons pour rendre ce mariage impossible sans qu'il fût interdit pour cela à un autre, plus libre, d'y songer. Mais maintenant, Agnès avait été affranchie de Mistress Barnabé, l'orgueilleux frère de Stephenson semblait s'incliner devant elle, Lady Stephenson, sa femme, avait choisi Agnès pour son amie de cœur, et ce qu'il y avait encore de 100 fois, de 1000 fois pire, en errant dans les salons, il venait entendre dire que la jeune fille était héritière de 1500 livres sterling de rente. Pour le coup, il n'y croyait pas. Mais il n'avait pas besoin de cela pour comprendre que, quand même il serait assez heureux pour obtenir son jeune cœur, il ne pouvait devenir son mari sans passer aux yeux de l'ami qui s'était fié à ses conseils pour le traître le plus consommé qui ait jamais existé sous la calotte des cieux. De pareilles pensées étaient bien suffisantes pour changer la plus suave des harmonies en accords discordants. Et, dans son ensemble, la soirée pour l'infortuné colonel fut plutôt un tourment qu'un plaisir. Quand la société se sépara, le colonel Hubert, laissant sa tante aux soins de Sir Edward, escorta Mistress Peters et les 4 demoiselles jusqu'au bas de l'escalier. Là, un autre coup l'attendait. Le domestique de cette dame vint demander à sa maîtresse lequel des 2 équipages il fallait appeler le premier. Sur quoi Mistress Peter, se retournant vers Agnès, dit à cette dernière « À quel nom vos domestiques répondent-ils, ma chère? Miss Compton m'a dit que vous aviez ici votre voiture. Mais peut-être est-ce une façon de parler, et est-ce la sienne que vous avez? Doit-on appeler la voiture de Mademoiselle Compton ou la voiture de Mademoiselle Willoughby? » « Je crois qu'ils répondront aussi bien à l'un qu'à l'autre, » répliqua négligemment Agnès. Car elle attendait que le colonel Hubert terminât ce qu'il lui racontait. Appelez la voiture de Mademoiselle Willoughby, alors, dit Mistress Peters au domestique qui attendait, et la voiture de Mademoiselle Willoughby. La voiture de Mademoiselle Willoughby résonna dans tout le vestibule et au travers de la rue.